Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 27 janvier 2022. Dans le Victoria, des milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité après le passage dans la matinée d'une tempête qui a frappé le centre de l'État. À l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste qui est célébrée aujourd'hui, une étude nous apprend que près d'un quart des Australiens ne savent rien, ou presque, à propos de la Shoah. Et aux États-Unis, le directeur de l'Institut national des maladies infectieuses, le docteur Anthony Fauci, souhaite que le coronavirus soit désormais traité comme une simple grippe. Le cabinet national qui rassemble le gouvernement fédéral ainsi que l'ensemble des dirigeants des États australiens doit se réunir à nouveau aujourd'hui pour faire un nouveau point sur la pandémie. Au menu du jour, l'avancée de la campagne de rappel vaccinal, la capacité des hôpitaux à gérer éventuellement l'afflux de malades ainsi que les perturbations engendrées par Omicron sur la chaîne logistique. Il sera également question de la vaccination pour les enfants allant à l'école primaire, ces enfants qui retournent à l'école la semaine prochaine. Actuellement, un peu plus d'un tiers des enfants âgés de 5 à 11 ans en Australie ont reçu au moins une dose de vaccin, mais la travailliste Christina Keneally a fait part à nos confrères de ABC des doutes qu'elle avait quant à la capacité de cette réunion à faire des avancées significatives.
What my frustration and my fear for today's National Cabinet will be that it'll be just more of the same, where the premiers come along, they tell Mr. Morrison what they're doing, he doesn't really try to get any type of national consensus, and again the Australian people just pay the price for his failure to plan ahead.
En Nouvelle-Galles du Sud, les autorités annoncent aujourd'hui le décès de 29 personnes ayant contracté le Covid-19. En revanche, le nombre de personnes hospitalisées recule légèrement et s'établit aujourd'hui à 2722. L'État a en outre précisé que près de 5 millions de tests antigéniques ont été distribués à 80% des écoles de Nouvelle-Galles du Sud, une mesure faisant partie d'un ensemble plus large de mesures mises en œuvre pour permettre le retour des enfants à l'école, d'après le dirigeant de l'État, Dominique Perrottet.
And I want to once again say to parents right across the state that we will ensure that we have a safe environment on day one. I know many parents are anxious, but it's incredibly important, as we've said numerous times, for our children's educational outcomes, mental health and social outcomes to be back in the classroom. And I'm very pleased with the work that has been done right across the state to ensure that we can have kids back in the classroom day one, term one, in a safe way for teachers, children and parents.
Dans l'État du Victoria, on déplore aujourd'hui le décès de 15 personnes, mais comme en Nouvelle-Galles du Sud, le nombre de personnes hospitalisées amorce également un recul. On reste d'ailleurs dans le Victoria, puisque au moment où on se parle, des milliers de personnes sont actuellement privées d'électricité après le passage de violentes tempêtes qui ont frappé le centre de l'État dans la matinée. Christopher Harvey, le directeur du bureau météorologique, conseille à la population de rester extrêmement prudente.
So currently, there is a severe thunderstorm warning for parts of central and eastern Victoria, which does include the outer eastern suburb of Melbourne, parts of South Gippsland, and also the northeast ranges. So there is still a severe thunderstorm warning current, which covers some parts of Melbourne. But currently, those storms are easing in terms of their intensity. So it is looking like we'll see a period of more relatively benign thunderstorm activity through the middle part of today. However, we are expecting severe thunderstorms to redevelop later this afternoon.
Au niveau mondial, la vague Omicron a fait exploser tous les compteurs. L'Organisation mondiale de la santé indique que 21 millions d'infections ont été recensées au cours de la seule semaine dernière, un chiffre en augmentation de 5%. En revanche, l'OMS signale également que le nombre de décès reste stable. Il se situe légèrement au-delà de 50 000. Une annonce qui intervient alors qu'aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, le principal expert américain en matière de maladies infectieuses, a détaillé sa vision concernant le futur de la Covid-19, un virus qu'il souhaiterait désormais traiter comme une maladie respiratoire plus classique telle que la grippe. Un changement de braquet dans la gestion de cette épidémie qu'il souhaiterait voir amorcer le plus rapidement possible.
Where we want to be is that sufficient control, and control we mean not eradication like we did with smallpox, that's unreasonable, not necessarily elimination like we've done with polio and with measles by mass vaccination campaigns, but a level of control that does not disrupt us in society, does not dominate our lives, does not prevent us to do the things that we generally do under normal existence.
Entre Washington et Moscou, les échanges d'amabilité se poursuivent autour de la question ukrainienne. Les deux pays ont continué ces derniers jours à s'invectiver par déclarations interposées. Mais en Ukraine, loin de céder à la panique, la population relativise et temporise. À Kiev, on écoute la correspondance de Stéphane Sioran pour RFI.
La décision des États-Unis et de la Grande-Bretagne d'évacuer de Kiev leur personnel diplomatique non essentiel a été accueillie de manière très sceptique, aussi bien par un certain nombre de diplomates européens que par les autorités ukrainiennes qui ont jugé l'initiative prématurée. Selon Oleksiy Danilov, le patron du Conseil national de sécurité, il n'y a aucune raison de paniquer et de s'inquiéter concernant l'Ukraine. La situation est sous contrôle. Selon lui, l'armée ukrainienne n'attaquera personne et les mouvements russes sont connus de longue date. Même son de cloche du côté du ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, qui a estimé que le nombre de soldats russes à la frontière n'était pas encore assez élevé pour envisager une attaque sur un territoire aussi vaste que l'Ukraine. Cela produit une ambiance un peu surréaliste à Kiev, alors que des expatriés anglo-saxons sont en train de plier bagages, alors que la situation sécuritaire est absolument calme, et cela entretient une véritable confusion auprès des Ukrainiens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Pendant ce temps, en Ukraine, on attend avec une certaine fébrilité les débuts du mois de février, alors que les Russes et les Biélorusses doivent tenir des exercices militaires conjoints et que des navires militaires russes s'approchent de l'est de la Méditerranée et donc de la mer Noire. Stéphane Sioran, Kiev, RFI.
Depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan, l'aide humanitaire a presque été entièrement suspendue sur place, les donateurs espérant ainsi pousser les nouveaux maîtres de Kaboul à respecter les droits de l'homme. Aucune concession n'a pour l'instant été faite en la matière, mais en attendant, le pays s'est enfoncé dans la crise et une large partie de la population est désormais confrontée à la famine, d'après les Nations Unies. Son secrétaire général, Antonio Guterres, appelle donc à permettre le retour des ONG sur place. Il estime que le sort du pays ne tient désormais plus qu'à un fil.
Six months after the takeover by the Taliban, Afghanistan is hanging by a thread. For Afghans, daily life has become a frozen hell.
Au Royaume-Uni, Boris Johnson s'apprête à vivre les 48 heures les plus dangereuses de sa carrière, c'est ce que pensent la plupart des journaux britanniques, alors que le Premier ministre est visé par une enquête de police pour violation présumée des restrictions sanitaires. Au Parlement, lors de la séance des questions au gouvernement hier, mercredi, il a dû faire face à des critiques féroces de la part des parlementaires. À Londres, le récit de Emeline Vin pour RFI.
Le président de la Chambre des communes a dû rappeler les députés à l'ordre quatre fois. Quatre fois aussi, le chef de l'opposition, Keir Starmer, a réclamé la démission de Boris Johnson après l'ouverture d'une enquête de police au sujet des fêtes à Downing Street.
Nous assistons désormais au triste spectacle d'un Premier ministre visé par une enquête, incapable de diriger le pays et qui refuse de faire ce qu'il faut. Et tout ça, alors que le prix de l'essence, des courses, de l'énergie monte en flèche, vous ne comprenez vraiment pas le tort que votre comportement fait à ce pays.
Des appels relayés entre autres par le parti nationaliste écossais, esquivés à chaque fois par le Premier ministre bruyamment soutenu sur les bancs conservateurs.
Je ne peux pas commenter, mais ce qui se passe au gouvernement
c'est que le Royaume-Uni mène le front européen pour proposer un train de sanctions contre Vladimir Poutine, pour empêcher ce qui serait une catastrophique invasion.
Sans oublier de vanter sa gestion de la pandémie. L'air fatigué en arrivant, le chef du gouvernement a quitté la chambre revigoré. Emeline Van Londres, RFI.
En France, au procès des attentats du 13 novembre, un deuxième accusé a fait hier usage de son droit à garder le silence, Mohamed Bakali, soupçonné d'être l'un des logisticiens des attentats, a déjà été condamné à 25 ans de prison pour sa participation à l'attaque du Thalys, c'était en juillet 2015. Il devait être interrogé hier par la cour, mais il a tout simplement refusé de répondre. Compte rendu d'audience avec Marine de la Moissonnière pour RFI.
Je n'ai plus la force de me battre. D'une voix posée, Mohamed Bakali raconte avoir joué le jeu lors du procès du Thalys, s'être expliqué longuement et avoir écopé d'une peine à laquelle lui qui se dit innocent ne s'attendait pas. Ça m'a cassé, avoue-t-il. Ses conditions de détention, le procès en cours lui pèsent aussi. Surtout les 5 semaines de témoignages des parties civiles, ça m'a achevé. Aujourd'hui, Mohamed Bakali dit être fatigué et ne plus vouloir parler. De toute façon, quoi que je dise, quoi que je fasse, ma parole est toujours suspecte. Elle n'a pas de valeur. L'homme ne répondra donc à aucune question. Silence sur ses convictions religieuses, sur ses liens avec les frères El Bakraoui, kamikazes des attentats de Bruxelles, et sur les planques qu'il aurait louées. Maître Chemla, avocat de partie civile, tente sa chance. Si les victimes vous ont bouleversé, alors vous avez des comptes à leur rendre. Elles ont le droit d'entendre ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Mohamed Bakali reste mutique. La cour devra s'en tenir à ses déclarations pendant l'instruction. D'une même voix ferme, comme en écho, son grand frère dit à la barre que lui aussi, vu ce qui s'est passé lors du procès du Thalys, a l'impression que son cadet est déjà condamné.
Retour en Australie où visiblement la population a une connaissance très limitée de l'histoire. D'après une étude qui vient de paraître, un quart des Australiens ne connaissent rien ou presque de l'Holocauste et plus de 70% d'entre eux ne savent rien des liens de l'Australie avec la Shoah. Cette étude est rendue publique, je vous le disais, aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Stephen Cook, qui a dirigé cette étude, estime que les résultats soulignent le besoin d'améliorer l'enseignement à l'école de cet événement tragique de l'histoire.
We need to acknowledge that the Holocaust is part of our story. This is the story of people in our street. This is the story of the decisions that our governments have made over time. So this is a really important part of the Australian story.
On jette maintenant un coup d'œil à la météo du jour en Australie. 32 degrés et grand soleil à Perth, 31 à Adelaide, 34 à Melbourne où le temps aujourd'hui est très lourd. Ça pourrait même virer à l'orage plus tard dans la journée. Il y a des nuages au-dessus de Canberra où il fait 29 degrés, 28 à Sydney, 30 à Brisbane et 32 à Darwin qui va être aujourd'hui balayé par des averses.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.